Bienvenue dans Le Débat. Aujourd'hui, on se penche sur un vrai paradoxe électoral, à savoir l'élection présidentielle russe de 1996.
Ouais, l'élection où Boris Eltsine, qui était tombé à moins de 10% d'opinion favorable, arrive à arracher un second mandat face au communiste Gennady Zyuganov.
C'est ça. Et la question centrale qu'on tire de notre analyse aujourd'hui, c'est de savoir si cette victoire était un rempart pragmatique indispensable pour sauver la jeune démocratie russe.
Ou alors, et c'est ma position, si c'est le moment précis où cette démocratie a été confisquée par une oligarchie naissante.
Voilà. De mon côté, je suis convaincue de l'idée d'une victoire nécessaire. Une victoire qui a garanti la continuité face au gouffre soviétique.
Eh bien, moi, je vois ça plutôt comme la corruption fondatrice du système russe. C'est pas un sauvetage, mais un enterrement sous le poids des intérêts privés.
Bon, commençons par la réalité des urnes. En juillet 96, on a quand même une participation massive qui frôle le 69%.
68,8 pour être précis.
Exactement. Et avec un score net de 54,4% pour Eltsine. Les chiffres montrent qu'une majorité de Russes a fait un choix clair, un refus absolu de revenir en arrière.
Un choix, c'est vite dit.
Bah, Zyuganov a reconnu sa défaite pacifiquement, non? Le processus a été respecté.
Sur le papier, oui. Les institutions ont tenu, mais il faut regarder la machinerie derrière ces 69%. Le contexte, c'est le forum de Davos, quelques mois plus tôt.
Ah, le fameux pacte de Davos.
Absolument. Les nouveaux magnates russes étaient terrifiés à l'idée de perdre leurs industries si les communistes revenaient. Donc, ils ont scellé un pacte financier avec le Kremlin.
Vous parlez d'un mécanisme de financement privé pour sauver l'État, en somme.
Oui, un échange pur et dur. Ils injectent des sommes colossales dans la campagne et en retour, leurs chaînes de télévision deviennent des simples agences de propagande.
Propagande, le mot est un peu fort, non?
Mais c'était un rouleau compresseur médiatique. Le message, c'était « votez Eltsine ou perdez tout ». Le consentement a été totalement fabriqué par ce monopole de l'information.
Attendez, on ne peut pas réduire cette élection à un simple achat d'espace publicitaire par des milliardaires. La politique sur le terrain a joué un rôle énorme.
Ah bon? Quel rôle, par exemple?
Prenez la dynamique avec le général Alexandre Lebed. Au premier tour, il fait 15% avec un discours très axé sur le retour à l'ordre.
C'est vrai, un discours très martial.
Et comment Eltsine capte ses voix au second tour, hein? Pas juste avec des spots télé. Il nomme Lebed à la tête du Conseil de sécurité. Ça, c'est de la mécanique d'alliance classique dans n'importe quelle démocratie.
Je vous concède l'habileté tactique, bien sûr. Lebed rassurait un électorat en quête d'autorité.
Voilà, il donne des garanties institutionnelles à la droite nationaliste. C'est une vraie intelligence électorale, bien au-delà de l'argent, hein.
C'est habile, oui, mais cette façade politique cache une tromperie bien plus grave. Pendant qu'on orchestre ces alliances, il se passe quoi en coulisses?
Vous voulez parler de la santé du président?
Exactement. Eltsine fait une grave crise cardiaque entre les deux tours, et l'information est totalement étouffée. On diffuse des interviews préenregistrées.
C'est le grand secret clinique de cette élection, c'est vrai.
On a fait voter des millions de gens pour un homme qui était en soins intensifs, aux portes de la mort. La légitimité démocratique s'effondre quand le candidat n'est plus qu'une illusion, cathodique.
C'est une dissimulation choquante, je suis tout à fait d'accord. Mais il faut se demander pourquoi cette mascarade s'est mise en place. La pression des enjeux était écrasante.
Une pression qui justifie de mentir à tout un pays?
Dans ce contexte, peut-être. Les chancelleries occidentales et les réformateurs redoutaient tellement les communistes qu'ils avaient besoin d'un garant, même affaibli, pour poursuivre la transition économique. Et puis n'oublions pas, la Russie était embourbée en Tchétchénie.
La guerre, oui, c'est vrai.
Révéler son état de santé aurait créé un vide de pouvoir immédiat en pleine guerre sanglante. Ce silence médical, c'était une décision terrifiante, mais cyniquement nécessaire pour la stabilité de l'État.
Mais à quel prix ? Enfin, je conteste pas la logique d'urgence de l'époque, hein, mais ce pragmatisme a eu un effet toxique durable.
Comment ça, durable ?
Bah, en maintenant un président convalescent artificiellement au pouvoir, le pouvoir exécutif réel a glissé de ses mains vers celle de ses conseillers et des fameux oligarques de Davos.
C'est le vrai début de l'oligarchie.
Voilà. Ce jour-là, l'État russe a contracté une dette immense envers des intérêts privés totalement intouchables.
Et c'est là que réside toute la complexité de cet événement. Pour ma part, malgré la censure et les manœuvres financières, je reste convaincue que 96 a joué un rôle de pare-feu douloureux, mais indispensable pour bloquer un retour désastreux au passé soviétique.
Et mon analyse m'amène à la conclusion inverse.
En détruisant l'intégrité du processus électoral pour sauver le système, ils ont prouvé à l'argent et le mensonge d'État pouvaient dicter le destin du pays. Ça a gangréné la démocratie à la racine.
Le débat reste ouvert. L'histoire regorge de ces moments de bascule où la survie d'un régime semble exiger de tordre ses propres principes.
Absolument.
Nous laissons donc nos auditeurs juger par eux-mêmes des véritables fondations de ce pouvoir, bâti sur la peur du passé. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.